En introduction, allons à la rencontre du mot nation à travers trois expressions. La première, Organisation des Nations Unies. La deuxième, un tournoi de rugby. La Coupe des Six Nations, le tournoi des Six Nations. Et la troisième, une expression juridique, la nation est souveraine. Donc première expression, l'Organisation des Nations Unies. Vous savez tous ce que c'est, au moins un petit peu, et vous savez que c'est une organisation internationale qui regroupe finalement des États. La France en fait partie, et bien d'autres. Donc vous voyez tout de suite, sans être grand clair, que dans Organisation des Nations Unies, le mot « nation » est synonyme du mot « État ». On aurait pu appeler ça l'Organisation des États-Unis, mais comme États-Unis, c'est aussi le nom d'un État, ça aurait prêté à confusion. Donc on a appelé ça « Organisation des Nations Unies ». Nation égale État. Ne définissons pas l'État, faisons l'économie, mais c'est une définition juridique. Nation égale État. Deuxième expression, le tournoi des six nations. Quelles sont les six nations? Il y a l'Angleterre, l'Italie, la France, l'Écosse, l'Irlande et le Pays de Galles. Peut-être ne vous a-t-il déjà pas échappé que cette énumération rassemblait, comme on dit, des poireaux et des pommes. Les poireaux, France, Italie. La France et l'Italie sont des États. Mais le Pays de Galles, ce n'est pas un État. L'Angleterre, ce n'est pas un État. L'Irlande, il y a bien un État qu'on appelle la République d'Irlande. En gaélique, on l'appelle l'Air, E-I-R-E. Mais dans l'équipe de rugby de l'Irlande, il y a à la fois des joueurs qui sont des ressortissants de la République d'Irlande et des joueurs qui font partie de l'Irlande du Nord, qui est un élément du Royaume-Uni. Ah, je n'ai pas encore parlé du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, c'est l'Irlande du Nord, plus l'Écosse, plus le Pays de Galles, plus l'Angleterre. Et puis l'Écosse, c'est pas non plus un État, c'est pas non plus une nation. Alors c'est bien compliqué ce tournoi des six nations. Et pour simplifier les choses, on va dire que il y a donc deux États, ou deux nations, dans le sens premier du terme, juridique, la France et l'Italie. Et puis les autres, eh bien, c'est des nations qui nous permettent d'introduire un deuxième sens du mot « nation ». Quand on dit que l'Écosse est une nation, au sens du tournoi des six nations, qu'est-ce qu'on veut dire? Ben, je crois que le plus facile, c'est pas de vous expliquer qu'on désigne des gens qui portent tous le kilt, parce que c'est pas vrai, mais c'est de faire appel à l'étymologie. Nation, ça vient du latin « natio ». Une nation, dans ce sens-là, rassemble tous ceux et toutes celles qui partagent la même origine. Comme j'ai mauvais esprit, j'ajoute immédiatement, à supposer même que ce soit possible. Si un jour, c'est pour que vous ayez 2 minutes de repos, ça c'est pas la peine de le prendre en note, vous relisez l'évangile, enfin l'un des évangiles, vous demanderez à vos professeurs lequel, c'est celui dans lequel il y a une généalogie de Jésus. Et on explique quelles sont toutes les personnes qui figurent dans la généalogie de Jésus. Eh bien, dedans, il y a au moins 4 femmes qui, vis-à-vis de la famille de Jésus, sont des étrangères. Tout ça pour vous dire que c'est toujours extrêmement difficile de savoir ce que c'est que des gens qui ont la même origine, car nous sommes tous les fruits plus ou moins d'un métissage. Mais enfin, peu importe, revenons au latin. Merci beaucoup. Tout à l'heure, on m'a dit qu'il fallait que je parle très près du micro. Revenons au latin. Une nation, c'est un ensemble de personnes qui partagent la même origine. Donc, c'est en ce sens-là qu'on dit qu'il y a une nation écossaise. Ce sont des gens qui partagent la même origine. Mais, pour autant, ils ne constituent pas un État. Donc, vous voyez, dans le tournoi des six nations, vous avez deux nations qui sont des États, France, Italie, et les autres qui ne sont pas des États, avec en plus cette particularité de l'Irlande, qui pour partie est un État, c'est l'Irlande du Nord, donc il n'est pas un État, c'est l'Irlande du Nord, je suis en train de tout confondre, et pour une autre partie, c'est la République d'Irlande qui, elle, est un État. Et puis, troisième expression, ça devient encore un peu plus compliqué, dans la Constitution française, celle qui est actuellement en vigueur, il y a cette phrase. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants. La souveraineté nationale, qu'est-ce que c'est ? Alors, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire la souveraineté ? C'est un concept, c'est une notion qui a été forgée au XVIe siècle par un philosophe politique. Le rôle des philosophes politiques, c'est de porter un jugement de valeur sur les institutions. Ce philosophe politique s'appelait Jean Bodin, B-O-D-I-N. Il vivait à une époque de grands troubles en France. On est dans les années 1580, on est à la fin du XVIe siècle. Et le pays est divisé entre catholiques et protestants. C'est un grand désordre. Et quand il y a un grand désordre, il y a besoin d'un chef. Et Jean Bodin forge le concept de souveraineté et le définit ainsi. La souveraineté, alors c'est un peu du vieux français, mais c'est plus amusant, c'est la puissance de donner loi au sujet. La souveraineté, c'est la puissance de donner loi au sujet. Qui a la puissance de donner loi aux élèves dans ce lycée ? Le proviseur. Alors bien entendu, comme on a fait des progrès depuis Jean Bodin, on consulte le conseil d'établissement. Mais je vous donne cet exemple pour que vous compreniez ce que c'est que la souveraineté. La souveraineté, c'est la capacité de fixer des règles. Et pourquoi Jean Bodin a développé ce concept au XVIe siècle ? Parce qu'il a voulu renforcer l'autorité du roi. Le roi, à l'époque, c'était Henri III, pour dire que c'était à lui d'imposer des lois, donc d'imposer la paix à des Français qui étaient extrêmement divisés. Donc la souveraineté nationale, c'est la souveraineté de la nation. Ça veut dire que la nation, c'est elle qui a la puissance de faire la loi, d'imposer la loi. Alors si vous comprenez ce que je veux dire, vous avez de la chance, parce que je trouve ça extrêmement abstrait. Je vous expliquerai tout à l'heure dans la conception française de la nation que la nation dans ce sens-là a été inventée quand on s'est débarrassé du roi. Jusqu'à la Révolution française, qui avait la puissance de faire la loi ? C'était le roi. Mais à partir du moment où on s'est débarrassé du roi, il fallait quand même qu'on continue à faire des lois. Alors on a forgé le concept de nation, mais pour pas que vous restiez sur votre faim, je vais quand même vous en dire un tout petit peu plus. À ce moment-là, la nation, c'est une communauté de personnes, c'est une communauté, le grand mot est lâché, de citoyens qui s'intéressent à la vie de leur cité, de leur pays, et qui ont globalement, collectivement, ce pouvoir qu'on appelle la souveraineté, c'est-à-dire le pouvoir de faire la loi, de fixer la loi. Donc trois sens, je reviens à ce que j'ai essayé de synthétiser. Premièrement, Organisation des Nations Unies, la nation, c'est un État, c'est le sens juridique. Deuxièmement, dans le tournoi des six nations, on voit apparaître pour certaines de ces nations un sens étymologique. La nation, c'est l'ensemble des personnes qui partagent la même origine. C'est aussi un sens ethnique, si vous voulez. Et puis, troisièmement, la nation qui est souveraine. Là, on ne sait pas très bien ce que c'est que la nation, mais on vous renseigne sur un de ses attributs majeurs, elle est souveraine. Mais on ne sait pas ce que c'est, et c'est bien pour ça que mon sujet n'est pas terminé, parce que qui va faire partie de cette nation souveraine, ça va être un des objets de la suite de la conférence. Première partie donc de la suite de la conférence, je voudrais décortiquer avec vous une expression dont on parle parfois dans les journaux, dans la vie politique, dans les débats, l'expression d'identité nationale. Est-ce qu'une nation peut avoir une identité? Alors premièrement, si cette question a un sens, elle ne va pas concerner la nation souveraine, puisque la nation souveraine, pour l'instant, je ne sais pas qui la constitue. Donc je ne peux pas m'interroger sur son identité. Ça ne va pas concerner non plus la nation État. Est-ce qu'un État a une identité? Un État, c'est une personne juridique. En revanche, la question de l'identité, ça va vraiment concerner la définition de la nation communauté qui regroupe des personnes ayant la même origine. Est-ce que l'Écosse a une identité? Est-ce que la nation écossaise a une identité? Est-ce que la nation française, définie comme une communauté de personnes ayant la même origine, si c'est la bonne définition, mais pour l'instant, je sais bien que c'est difficile, acceptez-la. Après, je vous dirai que c'est peut-être pas la bonne. Est-ce que la nation française définie comme communauté de personnes ayant la même origine, est-ce qu'elle a une identité? Alors c'est intéressant parce que ça va nous obliger à non pas faire de la philosophie, je laisse ça à des gens plus compétents que moi, mais à tangenter quand même les programmes de philosophie, ou en tout cas la matière philosophique. Car la notion d'identité, à l'origine, c'est une notion qui ne vaut que pour les personnes. Vous êtes des personnes, chacune de vous a, disent les philosophes, une identité. Et pourquoi je dis les philosophes? Parce que la notion d'identité personnelle a été développée par des philosophes britanniques, soit à la fin du XVIIe siècle, et je pense à un Anglais, John Locke, si vous voulez, je pourrais vous donner les références exactes, ou alors au XVIIIe, et je pense à un Écossais, David Hume. Alors, je ne vais pas reprendre des expressions de philosophes, mais ce que j'ai retenu de ce qu'ils ont écrit et de ce que d'autres ont écrit ensuite, c'est que l'identité, c'est une personne, c'est ce qui dure et ne change pas. L'identité, c'est ce qui dure et ne change pas. C'est extrêmement difficile à se représenter ce que c'est que l'identité d'une personne. Prenez votre photo quand vous étiez bébé, un ravissant petit bébé. Regardez-vous. Qu'est-ce qui a duré et qui n'a pas changé? Pas grand-chose. Et pourtant, il paraît que les personnes ont une identité. Alors, ils ont déjà une identité administrative. Prenez votre carte nationale d'identité, si vous en avez une. Et si vous n'en avez pas, vous en aurez une un jour. C'est pas obligatoire, hein. Alors attention, hein, j'ai bien dit carte nationale d'identité. Je n'ai pas dit carte d'identité nationale. C'est la carte nationale d'identité. Regardez les mentions qu'il y a sur votre carte. Il y a votre nom. Ça, ça a des chances de ne pas changer. Encore que, vous savez très bien qu'il y a des gens qui changent de nom parce qu'ils trouvent qu'il y a des noms qui sont plus vendeurs que d'autres. Il y a votre prénom. Ça, ça a des chances de ne pas changer. Sauf si on vous a appelé Gertrude, vous trouvez que c'est vraiment trop laid et que vous préférez vous appeler Marie-Odile. Qu'est-ce que vous avez encore trouvé sur votre carte d'identité? Votre date de naissance. Alors là, je suis à peu près sûr que ça ne va pas changer depuis que l'état civil est suffisamment au point pour qu'on connaisse bien la date de naissance de chacun. On va trouver, attendez, je ne sais même pas, il faut que je regarde, je les ai notés. On va trouver, il y a cinq notions. Et vous pouvez me le dire, ce qu'il y a dedans? Non, ah non, non, il n'y a pas le poids. Non, non, alors attendez, non, il y a quelque chose d'important quand même. Il y a le sexe. En principe, ça ne change pas, mais c'est même pas vrai, puisqu'on peut être transsexuel. Il y a la taille. Alors ça, vous savez que ça change. En général, les gens normaux commencent par être tout petits, ils grandissent, puis après ils rapetissent. Bon. Tout ça pour vous dire que l'identité, dans son sens le plus concret, c'est déjà très difficile à définir. Et puis, en plus, chacun d'entre vous a son identité individuelle, personnelle, mais il a aussi plusieurs identités collectives. Parce que vous appartenez à des groupes. Par exemple, vous allez appartenir à un groupe de supporters d'une équipe de football, ou bien à un groupe qui fait du théâtre. Donc, autant d'identité collective que d'appartenance collective. Ça, c'est pour vous parler de la notion d'identité de chaque personne. Ça a un sens. C'est très difficile. Parce que si je prends ma définition, c'est ce qui dure et ne change pas. Vous allez rarement trouver quelque chose en vous qui dure et ne change pas. Mais est-ce que vous pouvez appliquer cette notion à la nation écossaise ou à la nation française, entendue comme communauté de personnes qui partagent la même origine? Pour que vous puissiez le faire, il faut que vous soyez capable d'assimiler une nation à une personne. C'est osé. Dans le cas français, il y a un historien qui l'a fait au milieu du 19e siècle. C'était Michelet. Michelet a, M-I-C-H-E-L-E-T, Michelet a identifié la France à une personne. Il aimait tellement la France que pour pouvoir exprimer son amour, il fallait qu'il se la représente sous la forme d'une personne. Et Michelet a expliqué dans son Histoire de France que la France était née de la rencontre de deux races. Bon, à l'époque, on employait ce mot-là. La race des Francs, qui avait envahi la France, qui avait conquis la France, la race des conquérants, et dont l'aristocratie était issue. Et puis les Gaulois, les vaincus, c'était le peuple. Et grâce à la Révolution française, ça c'est toujours du Michelet, la France avait pris conscience de son existence en tant que personne. Donc, vous en penserez ce que vous en voudrez, mais moi je trouve que cet usage du mot « identité » pour une nation présente deux inconvénients, et si on est pédagogique. Le premier inconvénient, ben c'est la même chose que pour les personnes, c'est que vous aurez extrêmement de mal à trouver pour la nation écossaise ou la nation française des traits qui ont duré et qui n'ont pas changé. Ça, c'est le premier inconvénient. Et le deuxième inconvénient, c'est que c'est une notion qui divise au lieu d'unir. Donc, mais prenons d'abord mon premier inconvénient. On a beaucoup de mal à trouver des caractéristiques qui durent et ne changent pas. Pour vous faire comprendre les choses et éviter toute polémique, je vais emprunter un exemple aux États-Unis des années 70. Je vais m'intéresser à des gens qui se considéraient comme les descendants d'une tribu indienne, les Mashpee. Mashpee. Oui. Alors les Mashpee sont des gens qui vivaient, qui vivent toujours d'ailleurs, dans l'état du Massachusetts. Et dans les années 70, ils ont saisi un tribunal, le tribunal compétent, parce qu'ils revendiquaient la propriété des trois quarts d'une ville qui a également leur nom, la ville de Machpi, 8000 hectares, rien que ça, en disant ces 8000 hectares nous appartiennent parce qu'ils étaient la propriété de nos ancêtres, la tribu Machpi, la nation Machpi, parce que nation, communauté de personnes qui partagent la même origine, tribu, c'est synonyme. Ces terres étaient la propriété de nos ancêtres, les Indiens Machpi, à la fin du XVIIIe siècle. Donc, c'était notre propriété collective, il faut nous rendre les 8000 hectares. Le tribunal a été saisi, et il a estimé que, pour pouvoir leur donner raison, il fallait qu'ils soient capables de démontrer trois choses. Premièrement, que les Machpi avaient, depuis la fin du XVIIIe siècle, constitué la même race. Là encore, c'est peut-être pas une notion scientifique, mais c'est comme ça dans la jurisprudence américaine. Deuxièmement, il fallait qu'ils aient constitué une communauté organisée de façon continue sous l'autorité d'un chef, d'un leader, d'un gouvernement. Et troisièmement, il fallait qu'ils aient occupé de manière continue depuis la fin du XVIIIe siècle un territoire bien identifié. Donc identité de race, identité d'organisation sous l'autorité d'un chef, identité de territoire. Bien, les pauvres Machpi n'ont pas réussi à apporter cette démonstration. Ils ont perdu leur procès. Ils n'ont pas réussi à démontrer qu'ils avaient une identité, ce qui dure et ne change pas, qui avait duré et qui n'avait pas changé. En l'espèce et dans mon exemple, l'identité étant caractérisée par trois traits, race, communauté sous l'autorité d'un chef, territoire. Vous pouvez prendre d'autres exemples, vous pouvez chercher d'autres critères pour savoir ce qui peut caractériser une identité. Je voulais simplement, à travers cet exemple qui est un exemple vécu, et pas si vieux que ça, on est en 1973, vous montrer que c'est extrêmement difficile de savoir ce que c'est, comment ça se caractérise, l'identité d'une tribu, l'identité d'une nation. Deuxième inconvénient. Si je pense comme Michelet, que la nation française est la fusion de Gaulois et de Francs, si je ne me sens moi-même, si je ne me vis pas moi-même comme un Gaulois, et si je ne me vis pas moi-même comme un Franc, comment voulez-vous que je me sente membre de la nation française? Autrement dit, je crois que ce n'est pas la peine de faire un grand discours, la notion d'identité appliquée à une nation est une notion qui divise, ce n'est pas une notion qui unit. Donc voilà les deux inconvénients. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur l'identité nationale, vous donner des éléments d'analyse. Et maintenant, je voudrais vous parler de la conception française de la nation. Car la notion d'identité nationale n'est pas compatible avec la conception française de la nation. Ça, c'est la transition. Et je suis sûr que vos professeurs de lettres et de philo vous disent qu'il faut toujours faire des transitions. Alors, la conception française de la nation, trois idées. Premièrement, la nation est souveraine. Je reviens un peu à mon introduction, mais je vais essayer de la clarifier. Deuxièmement, la nation est indivisible. Ça, ce sera très court. Et troisièmement, la nation est une communauté qui n'est pas fondée, justement, comme jusqu'à maintenant, je l'ai dit pour les Écossais, par exemple, sur la même origine. Mais c'est une communauté qui est choisie, c'est une communauté que l'on veut rejoindre, c'est une communauté, alors le mot un peu compliqué, on dit élective, c'est-à-dire que l'on élit comme on élit le chéri ou la chérie de son cœur. Alors premièrement, premier élément de la conception française de la nation est souveraine. Vous savez maintenant ce que c'est que la souveraineté, c'est la puissance de faire la loi. Vous savez qu'avec la Révolution française et le renvoi du roi, si on peut dire, qui était le souverain, il a fallu trouver un remplaçant. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi la nation et comment est-ce qu'on a pu le faire? Eh bien, premièrement, il a fallu, pour que la nation puisse être la souveraine remplaçant le roi, donner une nouvelle définition de la nation. Et cette nouvelle définition de la nation, c'est tout simplement une définition politique. La nation, c'est devenu la communauté des citoyens. Alors, on voit apparaître le mot citoyen, c'est-à-dire celui qui s'intéresse, qui gère les affaires de sa cité. Cité, ça peut être le pays, hein, c'est pas nécessairement la commune de Lemuy, du Muy ou la commune de Toulon, c'est pas ça. Hein. Donc la nation, ça n'est plus, c'est la communauté des citoyens qui exercent collectivement la souveraineté. Sous l'Ancien Régime, la nation, c'est la communauté des sujets, ça existait déjà, la communauté des sujets. Et au passage, on se demandait pas du tout si ces sujets avaient tous ou pas la même origine. Pourquoi? Parce que ce qui comptait, ce n'était pas leur origine, c'était leur lien avec le roi. Ils avaient un lien personnel avec le roi. C'était la communauté des sujets, la communauté des personnes qui étaient dans un lien de subordination avec le roi, dans un lien d'allégeance, le mot est encore mieux que subordination, avec le roi. Donc peu importe leur origine à la limite. Alors, bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas les TGV, il n'y avait pas les avions. Pour l'essentiel, les gens qui habitaient ce qu'on appelle aujourd'hui la France, ils avaient tous à peu près la même origine géographique. Mais pour l'essentiel seulement, il pouvait y en avoir qui venaient de pays plus lointains, mais ça n'avait rigoureusement aucune importance. Il y avait les sujets du roi, et finalement, l'origine de ces sujets, ce n'était pas un problème majeur, puisque tous se caractérisaient par un lien d'allégeance avec le roi. Et s'il changeait de pays, ben ce lien d'allégeance, il disparaissait. Alors qu'aujourd'hui, si vous allez vivre en Angleterre, si vous avez la nationalité française, je n'ai pas encore expliqué ce mot, ben vous allez la garder. Tandis qu'à l'époque, si vous étiez un sujet qui avait, on ne disait pas la nationalité française, mais la qualité de français, vous alliez vivre à l'étranger, c'était terminé, vous ne l'aviez plus. Ce qui comptait, c'était l'allégeance au roi. Bon. Eh bien, on change la définition de la nation d'une communauté de sujets. Ça devient une communauté de citoyens, libres et égaux, qui, collectivement, exercent la souveraineté. Deuxième invention, pour que la nation puisse être souveraine, il a fallu inventer le concept de représentation. Parce que la nation, si c'est l'ensemble des personnes qui constituent un pays, elle est souveraine, mais comment vous allez faire pour la réunir? Hein, surtout qu'il n'y avait pas, à l'époque, il n'y avait même pas de micro. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça pourrait devenir possible. Mais à la fin du XVIIIe siècle, en dehors de la réunion physique des 15 à 20 millions de personnes qui constituaient la population française, il n'y avait pas d'autre moyen de les assembler. Il n'y avait pas de possibilité virtuelle de les assembler. Il fallait que ce soit une assemblée réelle. Or, rassembler 15 à 20 millions de personnes, on ne savait pas faire. Donc il fallait bien qu'elle soit représentée. Et alors on est tout de suite tombé sur un os, parce qu'il y a des philosophes à l'époque, bon, le plus connu c'est Jean-Jacques Rousseau, qui disait, il faut surtout pas que vous soyez représentés, vous allez vous faire avoir. Il ne le disait pas comme ça, mais c'est ce qu'il voulait dire. Il le niait totalement dans son ouvrage Le Contrat Social, écrit, je crois que c'est 1762, l'idée même de représentation. Et il y a donc eu un espèce de grand débat, et finalement, c'est l'idée qu'on pouvait être représenté, que la nation, la communauté des citoyens pouvait être représentée, qu'il l'a emporté, et le premier texte dans lequel vous trouvez un signe de cette évolution, c'est un des articles de la fameuse Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est l'article 3, le texte est le suivant, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, mais ça n'est compréhensible que si vous ajoutez immédiatement, mais la nation, il faut qu'elle soit représentée, il faut qu'elle ait des représentants, bon, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les députés, les sénateurs. Donc voilà le premier pilier de la conception française de la nation est souveraine, et ça n'a pu être compréhensible qu'à deux conditions. Il a fallu changer la définition de la nation. On est passé d'une nation de l'ancien régime communauté de sujets à une nation communauté de citoyens. Et ça n'a pu être possible qu'à une deuxième condition, qu'on admette, qu'on accepte l'idée que ce souverain puisse se faire représenter, sinon c'était pas gérable, on savait pas faire. Deuxième élément de la conception française de la nation était indivisible. Ça, je ne vais pas m'étarder longtemps, tout simplement parce que si vous pouviez diviser la nation, c'est un raisonnement, ça vaut ce que ça vaut, eh bien, à ce moment-là, vous seriez obligé de partager la souveraineté. Si les Bretons étaient souverains, si les Provençaux étaient souverains, c'est-à-dire s'ils avaient la capacité de fixer des lois sur leur territoire, hein, revenez toujours à la même définition, on partagerait la souveraineté de la nation française. Donc ça, c'est la conception française. La nation est indivisible parce que si elle ne l'était pas, il faudrait partager la souveraineté. C'est une conception qui n'est pas du tout universelle. Vous savez que, je sais pas, l'Espagne voisine, par exemple, est organisée en provinces dont certaines ont une très grande autonomie. La Belgique est organisée en parties qui, chacune d'entre elles, a une très forte autonomie. Donc j'insiste pas davantage. Deuxième caractéristique, c'est que la nation est indivisible. Troisième caractéristique, la nation est une communauté que l'on choisit. C'est une communauté qui est fondée sur la volonté de vivre ensemble. Ça, c'est l'élément le plus connu, finalement, parce que généralement, on se réfère à un discours dont vos professeurs vous parleront peut-être, qui a été prononcé par un philosophe français, historien des religions, qui s'appelait Ernest Renan. Et ce discours a été prononcé, je crois, en 1884, je vais quand même le vérifier, parce que c'est pas totalement anodin, la date. Non, c'est 1882. Alors, pourquoi c'est pas anodin, je vous le dirai dans un moment. Donc, en 1882, Renan parle de la nation. Mais pourquoi est-ce qu'il en parle, 1882? Il en parle à cause de l'Alsace-Lorraine. La France a perdu la guerre contre la Prusse en 1871, et l'Alsace-Lorraine est devenue allemande. Donc, à partir de là, on prend l'habitude de dire qu'il y a deux conceptions de la nation. Il y a la conception dite allemande, l'Alsace-Lorraine doit être allemande, parce qu'on parle un dialecte allemand en Alsace-Lorraine, parce que on est de la même ethnie, et puis il y a la conception française, non, c'est vrai qu'on parle un dialecte allemand en Alsace-Lorraine, c'est peut-être vrai que c'est la même ethnie, mais les Alsaciens-Lorraines veulent faire partie de la nation française, c'est la volonté élective. Donc on a pris l'habitude d'opposer deux conceptions, la conception française de la nation qui repose sur un choix et la conception allemande qui reposerait sur des critères très objectifs, la race, si tant est que ça existe, la langue, etc., la géographie, bon. Je vous indique tout de suite que c'est pas aussi simple que ça, et que dans un moment, je vous parlerai du droit de la nationalité. C'est pour ça que la date de 1882 était importante, parce que la grande loi française sur la nationalité, dont on ne s'est pas beaucoup écarté depuis, c'est 1889, donc c'est 7 ans après le discours de Renan. Alors quel rapport je fais entre les deux? En 1882, Renan nous dit, la nation française, c'est une communauté de gens qui ont choisi de vivre ensemble. Peu importe leur origine, ce qui compte, c'est le libre choix. Et en 1889, on vote une loi qui explique que les enfants, et c'était surtout les garçons auxquels on s'intéressait, qui sont nés en France, sont français. C'est le droit du sol. Ils n'ont pas le choix. À partir du moment où ils sont nés en France, ils sont français. Et pourquoi on vote cette loi en 1889? Parce qu'on a besoin de militaires. C'est pour les besoins de la conscription. Et lorsque, par exemple, on était dans les mines du Nord, où il y avait pas mal de Belges, et que quand un jeune homme arrivait à l'âge du service militaire, il devait partir, le Belge restait, il avait sa copine, le Français qui partait, et quand il revenait, c'était le Belge qui l'avait piqué. Ben, ils n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents du tout. Donc, il y a eu tout un courant d'opinion, et pas seulement pour ça, bien sûr, mais parce qu'on avait besoin de garçons pour fournir les armées françaises en faveur du droit du sol. On est français quand on est né en France. Et à partir du moment où on est français, il faut faire son service militaire. C'est pas du tout électif, ça. C'est pas du tout la volonté de vivre ensemble. Donc vous voyez déjà un grand écart entre la conception de la nation telle qu'un philosophe comme Renan pouvait l'exposer en 1882. Et puis le droit de la nationalité, c'est pas tout à fait pareil que la conception de la nation, mais ça a quand même quelque chose à voir. J'y reviendrai tout à l'heure. 7 ans plus tard seulement, où on oblige des gens à devenir français. Donc vous voyez que ces sujets sont quand même un peu compliqués. Alors voilà pour la conception française de la nation, et maintenant je voudrais vous parler de la nationalité. Pour vous dire que là encore c'est un mot qui a eu au moins 3 sens. Le premier sens, pour vous le rencontrerez, vous l'avez rencontré, vous le rencontrerez jamais, j'en sais rien, si vous vous intéressez à l'histoire du 19e siècle. Dans l'histoire du 19e siècle, on aborde souvent la question de nation, mais là il s'agit de gens qui partagent la même origine et qui veulent devenir un État. On appelle ça le principe des nationalités. Par exemple, les Italiens veulent devenir un État. Aujourd'hui, parce que la chose n'est pas terminée, on parle souvent des Kurdes. Les Kurdes, c'est une nation, une communauté de gens qui partagent la même origine. C'est dans ce sens-là, ce n'est pas une communauté élective. Si vous avez envie d'être un Kurde, on ne vous prendra pas pour un Kurde, vous ne serez pas un Kurde. Pour être un Kurde, il faut être un Kurde, il faut partager la même origine. Il faut avoir papa, maman kurde, arrière-grand-père, arrière-grand-mère kurde. Eh bien, les Kurdes aujourd'hui, certains en tout cas, voudraient bien constituer un État. C'est ça le principe des nationalités. Une nationalité, c'est une nation au sens ethnique du terme qui voudrait former un État. Bon, ça c'est le premier sens. Le deuxième sens de nationalité, il date aussi du 19e siècle. D'ailleurs, ça va peut-être vous paraître négligeable, mais nationalité, c'est un mot du 19e siècle. À la fin du 18e siècle, à l'époque de la Révolution française, vous pourrez lire tous les textes que vous voudrez, vous ne verrez jamais le mot nationalité. Ça n'existait tout simplement pas. On parlait de citoyenneté. Et il y a encore des pays aujourd'hui où on parle peu de nationalité. En italien, on parle de la citoyenneté. La nationalité, on ne sait pas trop ce que c'est. En Angleterre, on parle de la citoyenneté, citizenship. On ne parle pas de la nationalité. La nationalité, c'est vraiment, pas uniquement, mais c'est vraiment un mot qui a bien réussi en France, mais qui n'existe pas partout. Et le deuxième sens du terme, il est apparu en 1825. Nationalité, c'était synonyme d'identité nationale. C'est une époque où on a voulu traduire un livre d'un philosophe allemand. Je ne sais même pas comment ça s'écrit d'ailleurs. Je préfère regarder mes notes. C'est pas grave. Je vous demande pardon. C'était juste pour vous réveiller. Ah non, je vais le faire. J'espère que vous avez pris ça en... Alors c'est bien. Bon, bah écoutez, je propose qu'on s'en passe. Voilà. Bon, je ne suis pas mécontent, ça vous a fait une récréation. Alors, mon allemand, il s'appelait Frédéric Jahn. Et ça fait partie de ces nombreux Allemands qui étaient soit des philosophes comme Fichte ou Jahn, soit des musiciens comme Beethoven, et qui n'avaient pas du tout apprécié l'occupation des... Pas d'Allemagne, ça n'existait pas, mais enfin d'États peuplés d'Allemands, d'États où on parlait l'allemand, parlait tout français à l'époque de l'Empire. Et Jahn avait écrit un livre pour protester, et quand il a fallu le traduire en français, en 1825, on a mis dans le titre « Réflexion sur l'identité des peuples allemands ». Voilà. C'est le deuxième sens du terme, et sur la nationalité, excusez-moi, réflexion sur la nationalité, je suis en train de dire des bêtises, et la nationalité, c'est synonyme d'identité nationale. Bon, donc premièrement, nationalité, principe des nationalités, ce sont des nations, communautés de personnes partageant la même origine, qui veulent un État. Deuxième sens, nationalité, c'est synonyme d'identité nationale. Et troisième sens, et c'est ça dont surtout je vais vous parler, c'est le sens juridique, c'est le droit de la nationalité. La nationalité, c'est ce lien qui unit un État à ses ressortissants. On n'y pense pas, mais un État sans ressortissants, ça n'a pas de réalité. Un État sans frontières, ça n'a pas de réalité. Donc, le droit qui va permettre de répondre à la question, mais qui est ressortissant d'un État, c'est un droit dont vous vous moquez peut-être, mais qui est fondamental, parce que c'est ça qui permet concrètement à un État d'avoir une existence, ça plus son territoire. Un territoire, pas de ressortissant, il n'y a pas d'État. Donc le droit de la nationalité doit répondre à la question, qui a la nationalité, par exemple, française ? Et là, je voudrais insister sur deux choses, finalement. Première idée, je l'ai déjà abordé un peu tout à l'heure, il n'y a pas de correspondance entre la conception de la nation et le droit de la nationalité, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, Renan, quand il fait son discours en 1882 sur la nation, vous explique qu'elle se caractérise par la volonté de vivre ensemble. 7 ans plus tard, quand on vote la loi sur la nationalité, en 1889, on impose aux gens de devenir français le droit du sol. Ça veut dire que si vous naissez sur le territoire français, vous êtes français. Et on ne vous demande pas votre avis. Alors, au passage, mais ça c'est un petit détail, mais souvent les gens ne le savent pas. Si votre papa et votre maman sont de nationalité étrangère, sont en France, vous venez au monde en France, vous êtes français, mais pas tout de suite, à votre majorité. C'est encore un peu plus compliqué que ça, vous pouvez l'être avant, mais je simplifie. Ça veut dire que jusqu'à l'âge de 18 ans, même si vous ne le savez pas, vous n'êtes pas français. Donc c'est un droit du sol qui est retardé, qui est différé. Bon, c'est pas mon sujet, c'est pas une conférence de juristes. Ce que je veux simplement vous dire, c'est qu'entre la conception de la nation à la française, à la Renan, et le droit de la nationalité à la française à peu près à la même époque, c'est le grand écart. La nation, on veut vivre ensemble. Le droit de la nationalité, on vous oblige d'être français pour faire votre service militaire. Ça, c'est la première chose sur laquelle je voulais insister. Et en plus, alors je voulais vous dire que je trouve que les expressions qui consistent à expliquer qu'il y a deux types de droit de la nationalité, il y a le droit du sol et le droit du sang, ces expressions me paraissent, en tout cas la seconde, très mauvaise. Le droit du sang, ça veut dire que vous avez la nationalité de vos parents. Pourquoi ça me paraît très mauvais ? Parce qu'on a l'impression qu'il y aurait un sang breton, qui aurait un sang aveyronnais, qui aurait un sang français, qui aurait un sang algérien, qui aurait un sang guinéen. C'est évidemment totalement absurde. C'est pour ça que l'expression « droit du sang » n'est pas bonne. Ça ne veut pas dire que dans vos veines coule du sang français ou du sang algérien. Ça veut dire que dans vos veines coule un sang que vous tenez, comme d'ailleurs tous les éléments de votre corps, de vos parents. Mais le mot droit du sang me plaît pas du tout, parce que il incite à une mauvaise compréhension. Voilà. En tout cas, premièrement, retenez ça, contrairement à ce qu'on écrit souvent, il n'y a pas de relation entre la conception de la nation telle que les philosophes politiques la décrivent et puis le droit de la nationalité tel que les juristes la bâtissent. La deuxième chose sur laquelle je voulais insister, c'est qu'on dit souvent qu'il y aurait un droit de la nationalité français et un droit de la nationalité allemande. Et on dit, le droit de la nationalité allemande, c'est justement le droit du sang. Pour être allemand, il faut que papa et maman soient allemands, il faut que les grands-parents soient allemands, ça c'est le droit du sang. Et pour être français, bah, c'est le droit du sol, il faut être né sur le territoire français. Je voulais vous dire que c'est pas si simple. Si j'y tiens beaucoup, c'est moins à cause de mon sujet que pour vous inciter à ne pas croire que les êtres humains sont si différents les uns des autres, que les pays sont si différents des uns des autres, qu'on veut bien le dire. Il ne faut pas schématiser. Vous n'êtes pas très différents des autres, nous ne sommes pas très différents des autres. Et je prends l'exemple du droit de la nationalité. Car en 1803, pourquoi je prends cette date-là? C'est la date du Code civil. Et c'est la première fois que dans un texte, on traite du droit de la nationalité. Alors, on ne dit pas le mot, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. En 1803, le mot nationalité n'existe pas. Mais on parle de la qualité de français. Eh bien, dans le droit civil, dans le Code civil de 1803, est-ce que c'est le droit du sol? Non, c'est le droit du sang. Le droit du sang. C'est-à-dire que pour être français, il faut avoir ses parents français. Et qui est-ce qui va inspirer la loi prussienne de la nationalité? C'est la France. Où l'Allemagne a-t-elle pris le droit du sang dans le droit français? Il y a un code prussien de la nationalité dans les années 1840 qui apporte exactement la même réponse que le code civil français. Droit du sang. Et comme la Prusse va devenir l'élément moteur de la construction de l'Allemagne, c'est le droit prussien qui va influencer le droit allemand après la création de l'État allemand en 1871. Donc à l'origine, c'est exactement la même conception. Alors pourquoi vont-elles diverger? Pas pour des raisons de principe, pas pour des raisons philosophiques, pas pour des raisons sordides. Tout simplement parce que les deux pays n'ont pas la même histoire démographique. La France devient très vite, seule en Europe, un pays d'immigration. Ça veut dire un pays dans lequel arrivent des gens qui viennent d'ailleurs, dès le 19e siècle. Et donc, dans ces conditions, il est évident que si on avait gardé le droit du sang, peut-être qu'on aurait eu plus d'étrangers un jour que de Français, parce qu'il ne faut pas oublier ça. La plupart d'entre nous, nous sommes des descendants d'étrangers. Ça dépend l'époque à laquelle on se réfère. Or, pourtant, la plupart d'entre nous, nous sommes de nationalité française. Eh bien, ce miracle n'a pu exister que parce qu'on a abandonné le droit du sang au profit du droit du sol en 1889. Et pourquoi les Allemands ont fait pareil? Bah, tout simplement parce que l'Allemagne n'était pas un pays d'immigration. L'Allemagne était un pays d'émigration. Les Allemands quittaient leur pays. Et la préoccupation des autorités allemandes, c'était que quand un Allemand quittait son pays, il conserve sa nationalité allemande. Sauf si il prenait la nationalité du pays d'accueil en se faisant naturaliser dans le pays d'accueil. Mais le but essentiel, le but premier, c'était que l'Allemand qui quittait l'Allemagne conserve sa nationalité allemande. Ben dans ces conditions, il était tout naturel de garder le principe du droit du sang. C'est pas la peine d'aller inventer des explications qui sont péjoratives pour nos amis allemands. D'autant que, et c'est la fin de mon histoire que j'ai schématisée, en 2000, il y a eu une grande évolution dans le droit de la nationalité allemande, puisqu'on a fait une place au droit du sol. Et c'est pour ça que si vous vous intéressez à l'Allemagne, notamment à la vie politique allemande, vous pourrez constater qu'il y a des Allemands qui ont un nom turc aujourd'hui. Ils ont un nationalité allemande, ils sont turcs. Enfin, ils ont un nom turc. Ça a beaucoup évolué. Voilà ce que je voulais vous dire sur le droit de la nationalité. Ça me paraît vraiment très important. Et puis, enfin, ça fait combien de temps que je parle? Ça fait pas encore une heure qu'on a commencé. J'ai encore combien de temps? 5 minutes. Bien, merci madame. En conclusion, je vous avais dit que je vous parlerais de la crise de la nation. Première idée, je crois que c'est surtout la crise de l'État à laquelle on a affaire. Alors, État-nation, j'ai pas bien développé les deux idées. Ben, l'État, c'est l'instrument juridique de la nation. Hein. Pourquoi c'est la crise de l'État? Parce que l'État, qui, pour le compte de la nation, est la puissance souveraine, c'est-à-dire celui qui a le pouvoir de faire les lois, est de plus en plus le symbole de l'impuissance souveraine. C'est pas avoir mauvais esprit que de dire cela. Pourquoi? Parce que les États sont de plus en plus interdépendants. C'est vrai sur le plan de la finance, on en parle beaucoup en ce moment. C'est vrai sur le plan des échanges commerciaux. C'est vrai sur le plan de la protection de la terre. C'est vrai sur le plan de la guerre, de la paix. C'est vrai sur tous les sujets importants. À lui tout seul, il n'y a pratiquement aucun État, sauf peut-être les plus grands, qui ont la capacité, dans leur loi, de tenir compte de tous les éléments. Les États sont interdépendants et ils sont passés d'une situation de puissance souveraine à une situation d'impuissance souveraine qui est plus ou moins forte selon leur importance. Alors dans le cas de la France, cette idée générale vaut, comme pour tous les autres États, elle vaut d'autant plus que le poids de la France n'est pas considérable. 65 millions d'habitants, qu'est-ce que c'est à côté du 1,5 milliard de Chinois? 550 000 km², c'est pas mal, c'est la surface du pays. Enfin, qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Moi, je crois qu'il y a plus crise de l'État que de la nation. Mais deuxièmement, il y a quand même crise de la nation. Je simplifie pour deux raisons. La première, qui appartient à la philosophie politique, vous avez bien compris qu'il y avait deux conceptions de la nation qui s'affrontaient. Premièrement, vous pensez que vous faites partie d'une nation où tous les gens ont la même origine, c'est évidemment totalement contraire aux moyens de communication, à la démographie du monde, mais vous pensez ça, ou vous le pensez pas. Et deuxièmement, vous pensez au contraire que la nation doit fédérer autour d'un projet commun, quelle que soit l'origine des gens, les bonnes volontés, les espérances. La première conception, c'est la conception ethnique. La deuxième, c'est la conception civique. Et malheureusement, on vit dans un monde où, paradoxalement, la conception ethnique marque des points. Il y a plusieurs... L'exemple dont on parle le plus ces jours-ci, c'est la Hongrie. Mais lisez les journaux, vous verrez que ça revient chez nous, ça revient ailleurs. Bon, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que on définit la nation comme une communauté de citoyens. Eh bien, le citoyen... Étudiez Jean-Jacques Rousseau un jour, si ça vous fait plaisir. Le citoyen, c'est celui qui a la capacité de décider, non pas en tenant compte de ses intérêts particuliers, de ses appartenances particulières, mais de ce que Jean-Jacques Rousseau appelle la volonté générale. Eh bien, de plus en plus, pour exercer sa citoyenneté, c'est-à-dire pour avoir le sentiment d'exercer une influence dans ce monde interdépendant, il faut mettre entre parenthèses son appartenance particulière, qui est l'appartenance nationale. Il y a donc un espèce de conflit, dont je ne sais pas très bien comment d'ailleurs il peut se résoudre, entre l'exercice de la citoyenneté qui est enfermée dans le cadre national et la volonté de tenir compte d'autre chose que ses appartenances particulières, ce qui est impossible, puisqu'on exerce son droit de citoyen que dans le cadre de son État. Je simplifie, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais à la limite, je crois qu'il y a un conflit entre la citoyenneté et la souveraineté. La citoyenneté a vocation à être universelle. La souveraineté, elle est prisonnière dans le cadre des États. La citoyenneté est la prisonnière de la souveraineté. Ce sera le dernier mot. Je vous remercie de m'avoir écouté, parfois en dormant, mais parfois avec de la vivacité dans vos yeux.
Regardez-le. Ouais.
Finalement, qu'est-ce que vous avez retenu de tout ça ? Est-ce que vous avez des questions sur cet ensemble extrêmement complet, malgré la brièveté du temps qui nous est imparti ?
Brièveté, une heure, c'est beau.
Alors, est-ce que parmi vous...
D'abord, de quoi particulièrement obscur ? Ne me dites pas que jamais, parce que ça, je ne vous croirai pas.
Valentine.
Attendez, mademoiselle, on va vous donner le micro.
On va sonoriser Valentine.
On va sonoriser Valentine. Oui, j'ai dit ça. Ben, ça s'explique parce que en 1803, c'était la première fois qu'on traitait du droit de la qualité de français, ou aujourd'hui droit de la nationalité. On a fait au plus simple. Hein, qu'est-ce que c'est qu'un français ? Ben, c'est celui dont les parents sont français. Donc ça, c'est ça le droit du sang. Alors pourquoi on l'a abandonné ? On l'a abandonné parce que, à partir du Second Empire, la France est devenue un pays d'immigration. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Belges, d'Italiens, qui sont venus travailler en France, vivre en France, qui ont eu des enfants en France. Eh bien, si on avait appliqué le droit du sang, ces enfants n'auraient pas été français. Alors me direz-vous quel inconvénient ça pouvait présenter ? Bah, l'inconvénient majeur, pas philosophique mais très concret, c'est que seuls les Français devaient faire leur service militaire. Et qu'à l'époque, il n'y avait pas d'armée de métier, de bombes atomiques, d'hélicoptères de combat, c'était vraiment de la bataille du corps à corps. Donc pour nourrir les effectifs de l'armée française, il fallait appliquer le droit, le nouveau droit du sol. Ça veut dire que si vous n'étiez pas un sujet du roi de France, et si vous aviez des biens en France, et si vous n'êtes pas d'accord, il faut le dire. Hein.
Ah, je suis tout à fait
c'est
d'accord.
Il n'y a pas de... parce que c'est des confusions.
Éventuellement, je voudrais...
J'ai la chance de vous voir. À la soviétique. Voilà.
Et encore merci.
Avec plaisir. Bon, c'est un peu compliqué, hein. J'espère que...
Oui, vous voyez, je pense que certains passages, effectivement, ils ont un peu...
Oui, oui, mais j'en suis sûr, oui.
Pardon ? Si vous voulez, oui. Je crois qu'il y en a un ou deux qui ont une question pour vous.
Ah oui, mais je veux bien, oui, bien sûr. Oui, oui, au revoir, madame.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
J'espère que bon, ça va pas être compliqué.
Ah, pour moi, c'est pas compliqué, c'est pour eux que c'est compliqué.
Vous savez quoi, c'est une réplique que vous m'avez dit. La prochaine fois, tu me concerteras. Non, c'est bon, on avait branché. Je ne peux plus.